De Marsay revint à l'entracte en amenant monsieur de Listomère. L'homme grave et le jeune fat apprirent bientôt à l'altière marquise que le garçon de noces endimanché qu'elle avait eu la malheur d'admettre dans sa loge ne se nommait pas plus monsieur de Rubempré qu'un juif n'a de nom de baptême. Lucien était le fils d'un apothicaire nommé Chardon. Monsieur de Rastignac, très au fait des affaires d'Angoulême, avait fait rire déjà deux loges aux dépens de cette espèce de momie que la marquise nommait sa cousine, et de la précaution que cette dame prenait d'avoir près d'elle un pharmacien pour pouvoir sans doute entretenir par des drogues sa vie artificielle. Enfin, de Marsay rapporta quelques-unes des mille plaisanteries auxquelles se livrent en un instant les Parisiens, et qui sont aussi promptement oubliées que dites, mais derrière lesquelles était Châtelet, l'artisan de cette trahison carthaginoise. « Ma chère, dit sous l'éventail Madame d'Espard à Madame de Bargeton, de grâce. Dites-moi si votre protégé se nomme réellement Monsieur de Rubempré. » Il a pris le nom de sa mère, dit Anaïs embarrassée. Mais quel est le nom de son père? Chardon. Et que faisait ce Chardon? Il était pharmacien. J'étais bien sûre, ma chère amie, que tout Paris ne pouvait se moquer d'une femme que j'adopte. Je ne me soucie pas de voir venir ici les plaisants enchantés de me trouver avec le fils d'un apothicaire. Si vous m'en croyez, nous nous en irons ensemble et à l'instant. » Madame d'Espard prit un air assez impertinent, sans que Lucien pût deviner en quoi il avait donné lieu à ce changement de visage. Il pensa que son gilet était de mauvais goût, ce qui était vrai. Que la façon de son habit était d'une mode exagérée, ce qui était encore vrai. Il reconnut, avec une secrète amertume, qu'il fallait se faire habiller par un habile tailleur, et il se promit bien le lendemain d'aller chez le plus célèbre, afin de pouvoir, lundi prochain, rivaliser avec les hommes qu'il trouverait chez la marquise. Quoique perdu dans ses réflexions, ses yeux, attentifs au troisième acte, ne quittaient pas la scène. Tout en regardant les pompes de ce spectacle unique, il se livrait à son rêve sur Madame d'Espard. Il fut au désespoir de cette subite froideur qui contrariait étrangement l'ardeur intellectuelle avec laquelle il attaquait ce nouvel amour, insouciant des difficultés immenses qu'il apercevait et qu'il se promettait de vaincre. Il sortit de sa profonde contemplation pour recevoir sa nouvelle idole. Mais en tournant la tête, il se vit seul. Il avait entendu quelques légers bruits, la porte se fermait, Madame d'Espard entraînait sa cousine. Lucien fut surpris au dernier point de ce brusque abandon, mais il n'y pensa pas longtemps, précisément parce qu'il le trouvait inexplicable. Quand les deux femmes furent montées dans leur voiture et qu'elle roula par la rue de Richelieu vers le faubourg Saint-Honoré, la marquise dit avec un ton de colère déguisée « Ma chère enfant, à quoi pensez-vous? Mais attendez donc que le fils d'un apothicaire soit réellement célèbre avant de vous y intéresser. Ce n'est ni votre fils ni votre amant, n'est-ce pas ? » dit cette femme hautaine en jetant à sa cousine un regard inquisitif et clair. « Quel bonheur pour moi d'avoir tenu ce petit à distance et de ne lui avoir rien accordé, » pensa Madame de Bargeton. « Eh bien, » reprit la marquise qui prit l'expression des yeux de sa cousine pour une réponse, « laissez-le là, je vous en conjure. Ça rogère un nom illustre, mais c'est une audace que la société punit. J'admets que ce soit celui de sa mère. Mais songez donc, ma chère, qu'au roi seul appartient le droit de conférer, par une ordonnance, le nom des Rubempré au fils d'une demoiselle de cette maison. » Et si elle s'est mésalliée, la faveur est énorme. Pour l'obtenir, il faut une immense fortune, des services rendus, de très hautes protections. Cette mise de boutiquier en dimanche prouve que ce garçon n'est ni riche ni gentilhomme. Sa figure est belle, mais il me paraît fort sot. Il ne sait ni se tenir ni parler. Enfin, il n'est pas élevé. Par quel hasard le protégez-vous? Madame de Bargeton renia Lucien, comme Lucien l'avait renié en lui-même. Elle eut une effroyable peur que sa cousine n'apprît la vérité sur son voyage. « Mes chères cousines, je suis au désespoir de vous avoir compromise. »« On ne me compromet pas, » dit en souriant Madame d'Espard. « Je ne songe qu'à vous. »« Mais vous l'avez invité à venir dîner lundi. »« Je serai malade, » répondit vivement la marquise. « Vous l'en préviendrez, et je le consignerai sous son double nom à ma porte. » Lucien imagina de se promener pendant l'entracte dans le foyer en voyant que tout le monde y allait. D'abord, aucune des personnes qui étaient venues dans la loge de Madame d'Espard ne le salua ni ne parut faire attention à lui. ce qui sembla fort extraordinaire au poète de province. Puis du Châtelet, auquel il essaya de s'accrocher, le guettait du coin de l'œil et l'évita constamment. Après s'être convaincu, en voyant les hommes qui vaguaient dans le foyer que sa mise était assez ridicule, Lucien vint se replacer au coin de sa loge et demeura pendant le reste de la représentation, absorbé tour à tour par le pompeux spectacle du ballet du cinquième acte, si célèbre par son enfer, par l'aspect de la salle dans laquelle son regard alla de loge en loge, et par ses propres réflexions, qui furent profondes en présence de la société parisienne. « Voilà donc mon royaume, se dit-il. Voilà le monde que je dois dompter.